Je vais donc essayer, dans l'heure qui commence, d'une part, de vous donner la deuxième partie du deuxième exposé, le premier exposé d'aujourd'hui, et de vous donner le troisième exposé, de toute façon, d'une forme fort abrégée, qui est un raccourci d'histoire de la doctrine dans l'Église. Donc, je vais être obligé de comprimer les choses. Il y aura peut-être un bon effet de cette condensation inévitable, c'est que vous vous rendrez compte que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet et qu'il faut que vous travailliez encore par vous-même abondamment au-delà. Donc nous sommes en train de vérifier que les affirmations qui constituent ensemble le dogme de la Trinité divine sont bien bibliques. Et j'ai souligné que ce qui est au cœur qui finalement détermine tout le reste, la divinité de Jésus-Christ, qui est distincte du Père, est une affirmation très forte, déjà impliquée par des données de l'Ancien Testament, bien que au niveau de l'Ancien Testament, cela reste des énigmatiques, et massivement, de façon que je pourrais montrer encore de façon multiple, dans le Nouveau Testament. Quant à la distinction du Père et du Fils, je pense qu'elle a été beaucoup moins mise en doute que la pleine et entière divinité. Elle ressort de la manière dont Jésus parle de son Père et à son Père. Et elle ressort tout spécialement des textes sur sa préexistence. Il nous faut reconnaître que si nous n'avions que des textes qui se réfère aux relations de Jésus-Christ à son Père dans les jours de sa chair, au temps de l'incarnation, on pourrait dire, mais c'est en tant qu'homme qu'il se distingue du Père, ce n'est pas en tant que Dieu, donc ce n'est pas la Trinité. L'affirmation de sa préexistence permet de dire, donc cela est une distinction qui vaut pour l'éternité. Et cela est appliqué par le Verbe était auprès de Dieu, au premier verset de l'Évangile de Jean. C'est appliqué par la prière de Jean 17. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, dit Jésus au Père. Cela correspond au grand cantique christologique de Philippiens 2. Existant en forme de Dieu, de condition divine, peut-on traduire, c'est une expression qui a été traduite de manière diverse, mais dont je pense qu'on peut assez certainement le rapporter à sa préexistence. C'est l'interprétation quand même la plus courante, pas unanime, hein, il y a toujours des débats. Mais, donc, préexistence qui implique distinction dès avant l'incarnation même. Pour le Saint-Esprit, la situation est en quelque sorte un peu renversée par rapport à ce que nous venons de dire de Jésus-Christ. La divinité entière de l'Esprit a été très peu mise en doute. Et l'analogie mise en œuvre par l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu hier soir, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, « L'Esprit est à Dieu ce que l'Esprit d'un homme est à cet homme ». C'est cet homme conduit à estimer que la divinité de l'Esprit, sans restriction de sens, est quand même une chose assez clairement enseignée. Où irais-je loin de ton esprit, où fuirais-je loin de ta face, de toi? C'est constamment que l'Esprit de Dieu et la présence de Dieu sont identifiés. Le point critique, par rapport à la doctrine de la Trinité, c'est la distinction, cette fois, de l'Esprit. Si elle est, en quelque sorte, comme presque évidente pour le Fils, elle ne l'est pas pour l'Esprit. Une véritable distinction. Et l'analogie d'un Corinthiens 2 pourrait être évoquée à l'encontre. L'Esprit d'un homme ne se distingue pas vraiment de cet homme. Donc, la question de la distinction de l'esprit est posée. Dans l'Ancien Testament, la seule donnée forte qui permette d'affirmer la distinction de l'esprit, c'est l'envoi de l'esprit. Il envoie son esprit. Souffle de Dieu. À part cette donnée, il est un peu difficile d'affirmer une distinction qui aurait un caractère bien, bien clair et net. Dans le Nouveau Testament, alors les données sont plus abondantes, et tout spécialement dans l'évangile de Jean. Je pense qu'on peut dire que c'est dans l'évangile de Jean que nous avons une preuve, alors là, tout à fait nette et indubitable. Certes, dans tout le Nouveau Testament, la mission distincte de l'Esprit apparaît avec des lignes beaucoup plus fermement tracées encore que tout ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Donc, on a aussi un élément de preuve là. Mais ce qui me semble rendre inévitable d'affirmer une distinction de type personnel du Saint-Esprit, c'est l'ensemble des passages qui commencent au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, et tout spécialement avec le titre « L'autre paraclétos ». Certaines Bibles n'ont même pas traduit le mot « paraclétos » et ont mis « paraclet ». Paraclet comme simple transcription. D'ailleurs, près de Nogent-sur-Seine, l'abbaye qui a été fondée par Abélard et qu'il a ensuite donnée à Héloïse, qui est l'abbaye du Paraclet. Le titre n'est pas traduit. Le terme veut dire avocat. Dans un sens large, celui qui soutient, qui vient aider. Le terme est formé en grec exactement comme le mot avocat en latin, advocatus, para kletos. Ça équivaut exactement, c'est-à-dire appelé à côté. Celui qui est appelé à côté du prévenu, de l'accusé au tribunal, et qui va prendre sa défense, le soutenir. Le mot ne veut pas dire consolateur. Je déplore que cette fausse traduction ait été courante et traditionnelle. Il y a eu une confusion parce que le verbe duquel paraclétos s'est tiré peut vouloir dire consoler ou encourager. Paraclet. Mais il n'est pas à la forme active qu'impliquerait consolateur, il est à la forme passive appelée à côté. Et donc, c'est par confusion qu'on a traduit consolateur. Comme ça plaît, ça nous... Bien sûr, c'est une vérité qui nous console, mais ce n'est pas la traduction exacte du titre. Alors, dans ces chapitres 14 et suivants, l'Esprit est appelé paraclétos, avocat, soutien, défenseur, témoin. Et il est appelé l'autre paraclétos. Alors là, vraiment, la distinction est tout à fait nette. Le Christ est le premier paraclétos, et celui qui est notre avocat auprès du Père dans sa session céleste, aujourd'hui même, et l'Esprit qui est envoyé lorsque Jésus-Christ remonte auprès du Père est appelé l'autre paraclétos. Là, la distinction du Père, du Fils et de l'Esprit est, semble-t-il, aussi nette que possible. Alors, au-delà de ces propositions fondamentales, il y a l'ordre trinitaire. Je n'entre pas dans ce débat, vous pourrez trouver des éléments à ce propos dans mon cours, dans le livre tiré des cours, La doctrine du péché et de la rédemption, collection de Didascalia, où je traite en particulier de cette question de la procession du Saint-Esprit, du Père et du Fils, et de l'ordre que cela implique. Donc je renvoie ceux qui sont intéressés éventuellement aux pages en cause. Je n'ai pas maintenant le temps d'en traiter. Je passe à la deuxième partie de la vérification, qui contient de nombreux éléments que je pense trop intéressants, trop essentiels à notre étude biblique du sujet pour passer par-dessus, pour les résumer trop vite. Il s'agit de l'esquisse du dogme déjà unifié, de l'amorce de la combinaison des vérités fondamentales que nous venons de passer en revue rapidement. J'ai dit que si nous n'avions pas cela, il suffirait déjà pour nous permettre de confesser la Trinité, d'avoir la preuve que chacune des affirmations est bien biblique. Mais nous avons davantage dans l'Écriture, et cela bien sûr nous conforte et peut nous réjouir. Il y a, dans un certain nombre de passages, une amorce au moins de théorisation de la coexistence en Dieu de l'unité et de la différenciation de la pluralité qui finalement peut être dite Trinité. Et je voudrais vous donner une petite idée de cette présentation du dogme unifié. Alors, dans l'Ancien Testament, il faut reconnaître qu'il y a très peu. Déjà, chacune des vérités fondamentales nous est présentée d'une manière qui reste quelque peu énigmatique, je l'ai dit. Alors, leur combinaison, il n'y a pas énormément, il faut l'avouer. Comme je l'ai répondu à une question qui m'était posée dans l'intervalle, le pluriel de forme du mot Elohim, traduit Dieu en général, n'est sans doute pas un indice de pluralité trinitaire. La terminaison de forme plurielle, im en hébreu, est fréquente sans que nous ayons un véritable pluriel. Le mot vie a une telle forme. Quand vous lisez la vie, c'est chayim. C'est aussi un pluriel de forme. Le pluriel peut avoir le sens de l'abstraction, parfois la nuance de plénitude, et non pas de pluralité véritable. Donc le mot Elohim, en lui-même, n'indique pas la Trinité. Lorsque le verbe est mis au pluriel, alors là, c'est autre chose. Et dans le premier chapitre de la Genèse, je pense que le « faisons l'homme à notre image », le pluriel utilisé là, lui peut être une suggestion d'une pluralité. Je ne pense pas, contrairement à certains interprètes, que Dieu s'adresse aux anges, aux créatures angéliques autour de lui. Il n'est nulle part question qu'elles aient collaboré à la création, ces créatures, et encore moins que l'homme soit fait à leur image. Donc, je ne pense pas que ce pluriel, contrairement à cette interprétation, qui est une interprétation juive au départ, soit admissible. Dans le contexte, c'est la mention de l'Esprit de Dieu au second verset qui planait comme un oiseau qui vole à la surface des eaux, qui semble suggérer la possibilité d'une pluralité, d'une différenciation. Et on peut dire Dieu parle à son esprit lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image. C'est en tout cas une interprétation possible, et certains exégètes, qu'on pourrait dire critiques, comme le père Paul Beauchamp par exemple, ont reconnu l'aurore d'une révélation trinitaire. Et c'est une jolie image pour dire que c'est pas encore très clair, bien sûr, mais les premiers rayons peuvent en être perçus. Alors il y a quelques autres passages où un pluriel semblable intervient. Certains sont assez problématiques. Celui du chapitre 3 est beaucoup plus difficile à interpréter. Je n'entre pas dans ce débat. Mais c'est un élément qui peut être invoqué. Il y a deux passages qui sont intéressants. L'un de ces deux passages, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est Isaïe 48, 16. Dans la mesure où le serviteur de l'Éternel se présente comme préexistant et envoyé par Yahweh avec l'Esprit, nous aurions un modèle trinitaire important. Au moins certains auteurs y ont reconnu une suggestion de la Trinité. Et puis il y a la fameuse bénédiction sacerdotale du livre des Nombres. Elle ne constitue pas une preuve formelle, mais elle s'harmonise si bien, si heureusement avec la révélation trinitaire claire du Nouveau Testament, que je pense qu'on peut la citer. Le Seigneur, Yahweh te bénisse et te garde. Le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Le Seigneur lève sa face vers toi, ce qui est un signe d'accueil, d'agrément, et te donne la paix, t'assigne la paix. Ces trois membres correspondent remarquablement à ce qu'on appelle les appropriations des personnes de la Trinité, en théologie trinitaire. Alors j'explique ce que sont les appropriations. Certains d'entre vous l'avez sans doute travaillé, puisque je l'avais inclus dans une des questions. C'est une notion un peu subtile, et je prends donc le temps de l'expliquer. En théologie trinitaire, tous les attributs de la divinité sont propres aux trois personnes. La sagesse, la puissance, la vérité, c'est l'essence divine. L'essence, c'est ce qu'est Dieu. Et le Fils étant Dieu, il a tout. Le Saint-Esprit étant Dieu, il a tout. Si l'on considère la propriété, tous les attributs de la divinité appartiennent à chacune des trois personnes en plénitude. Et cela peut être dit, même des œuvres, bien que les choses se compliquent un peu à cet égard, les trois collaborent en toute œuvre de la divinité. Il y a un vieil adage de la théologie trinitaire qui dit que les œuvres externes de la divinité sont indivises, pas les séparer. Le Père, le Fils et l'Esprit sont toujours ensemble dans les œuvres. Cependant, il est possible, sans renier le fait que tous les trois possèdent en propriété tous les attributs et en un sens toutes les œuvres, de noter une relation privilégiée, une affinité plus marquée, plus particulière entre tel attribut et telle personne. Tel acte et telle personne. Telle œuvre, telle personne. Et on appelle ça une appropriation. Une appropriation, ce n'est pas une attribution exclusive en propriété, parce que ça, c'est pour les autres personnes aussi. Mais c'est quand même quelque chose qui distingue. Comme les personnes sont réellement distinctes, il est possible d'établir des relations privilégiées. À partir de quoi ? À partir de ce que la Bible nous dit. C'est dans la Bible qu'on le découvre, qu'il y a des affinités entre le Père et tel attribut, tel rôle. Par exemple, le Père et le fait d'être à partir de soi, à commencement absolu. C'est approprié au Père, en tant que Dieu, le Fils aussi, et de lui-même. Il possède ce qu'on appelle en théologie l'acéité. Ça veut dire le fait d'être à partir de soi, totale indépendance. Le Fils et l'Esprit, en tant que Dieu, possèdent l'acéité. Mais du fait que dans l'ordre trinitaire, le Père est le premier, et que dans l'ordre des personnes, en tant que personne, le Fils est engendré par le Père, et le Saint-Esprit procède du Père, et je pense aussi du Fils, fait que l'attribut d'ascélité est plus approprié au Père. Il y a une correspondance privilégiée avec le Père comme premier dans cet ordre trinitaire. C'est ça ce qu'on appelle une appropriation. Vous saisissez ce que cela implique? Oui, M. André. Non, non, les missions sont autre chose. Les missions, c'est quelque chose de plus exclusif que les appropriations. Les appropriations ne vont pas donner une propriété exclusive à l'un par rapport à l'autre. Alors que la mission, elle est propre à telle personne. Le Fils est envoyé, le Père n'est pas envoyé. Nulle part. Jamais le Père n'est envoyé dans l'Écriture. Donc, il faut distinguer entre les missions et les appropriations. Mais par exemple, pour les œuvres, on peut citer la création comme appropriée au Père. Le Fils et l'Esprit participent à la création. Et l'action du Fils dans la création est très fortement soulignée dans le Nouveau Testament. Pourtant, la création est appropriée au Père parce qu'elle a une analogie avec la paternité même. Il y a des passages où paternité et création sont mises en parallèle. Donc il y a une affinité plus marquée avec la place du Père, et du coup, on dira que la création est appropriée au Père, comme dans le Credo, je crois, en Dieu le Père tout puissant, créateur. Ça n'exclut pas le Fils et l'Esprit, au contraire, mais il y a une appropriation. Or, dans les... oui, je crois que M. Carré aussi avait une question. Non, 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 le mot subsistance est un mot utilisé comme équivalent de personne. Dans le langage trinitaire de l'Occident, n'est-ce pas, parce que subsistance vient du latin, vous avez deux jeux de langage en fait. Un qui dérive du grec et un qui dérive du latin, puisque la chrétienté a été divisée dans ces deux grands domaines. Elle a commencé par parler grec, et même à Rome, hein, jusqu'au IIe siècle, on parlait grec dans l'église de Rome. Mais ensuite, c'est le latin qui a prédominé. Alors, le mot subsistance a été choisi en Occident pour correspondre au mot hypostase, qui est le mot grec. Hypostase. Les Grecs ont dit trois hypostases. Le Père, le Fils et l'Esprit sont trois hypostases. En Occident, en latin, on a dit le plus souvent trois personnes. Mais le mot personne, il faut reconnaître, n'a pas toutes les mêmes connotations que le mot hypostase. Et alors certains ont employé le mot de subsistance pour correspondre à hypostase dans cet usage de la théologie trinitaire. Une substance, l'essence divine, la divinité même, et trois subsistances. Voilà la terminologie qui a été adoptée après discussion. Ça a été un long travail de la mise au point d'un tel vocabulaire. Alors que les appropriations, c'est le rattachement privilégié, mais non exclusif, de tel attribut et éventuellement de telle œuvre à l'une des personnes, à l'une des subsistances. Voilà comment on distinguerait ces concepts. Or, je reviens à la bénédiction lévitique aaronique de Nombre 6. Les trois termes correspondent admirablement aux appropriations des trois personnes. L'Éternel te bénisse et te garde. La souveraineté qui est appropriée au Père, qui commence, qui en quelque sorte survole l'ensemble du déploiement de la réalité et sous sa seigneurie. Yahvé, le Seigneur, fasse luire sa face, révélation, et te fasse grâce. La révélation et la grâce sont vraiment appropriées au Fils. C'est lui qui, comme verbe, a le rôle de révélateur, plus particulièrement, Et le mot grâce est associé à son œuvre. Donc il y a une appropriation du deuxième terme dans cette bénédiction au Fils qui est remarquable. Et puis le troisième terme, c'est peut-être un peu moins net, mais quand même, est très bien approprié à l'Esprit, avec l'accueil qui suggère la communion, qui lève sa face. Ça correspond peut-être assez à notre sourire, qui t'accueille avec le sourire. Une face comme ça, c'est comme Caïn. C'est une marque d'hostilité. La face levée, c'est le sourire, l'accueil, la communion et la paix. Le shalom. Voilà qui me semble très bien correspondre à ce qui est approprié à l'œuvre de l'Esprit. Donc, cette triple bénédiction de nombre 6 a une structure qui s'accorde admirablement avec la révélation trinitaire. Dans l'Ancien Testament, cependant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus, et c'est dans le Nouveau Testament que nous avons alors des données qui nous montrent l'amorce de la combinaison des vérités fondamentales, déjà une doctrine trinitaire en train de s'élaborer. Ce n'est qu'un commencement. La Bible n'est pas un manuel de théologie, mais c'est déjà un commencement. Alors on peut classer dans diverses catégories les données qui sont en cause. Je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a d'abord des scènes trinitaires. C'est quand même assez remarquable. Et cela permet d'exclure l'idée que nous n'aurions que trois manifestations à des moments divers d'une même divinité indifférenciée en elle-même. Si les trois sont dans une même scène, c'est qu'elles coexistent et donc il y a une distinction entre elles qui a un caractère durable. Il y a le baptême au Jourdain, deux moments clés dans l'histoire évangélique. Le Fils entre dans l'eau et au moment où il sort de l'eau, l'Esprit descend sur lui comme une colombe et le Père prononce les mots « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Nous avons le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une scène remarquablement trinitaire. Et il y a son écho, elle est reproduite. Cet élément de reproduction, d'ailleurs, est intéressant à noter pour lui-même, avec la transfiguration. Le Père prononce des paroles assez semblables sur le Fils bien-aimé, identifiant Jésus comme son Fils. Et le Saint-Esprit est représenté là par la nuée. La nuée, c'est, je crois, le symbole de l'Esprit. Tout au long de l'Écriture, déjà dans l'Exode, je crois que c'est en partie parce que c'est avec la présence de la nuée que Moïse conversait avec Dieu. Lors de ces entretiens qui faisaient rayonner ensuite son visage. Et l'apôtre Paul interprète cela en disant « Le Seigneur avec qui il parlait, c'est l'Esprit. » Parce qu'il y avait la nuée. Il parle d'un double baptême pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Je crois que c'est pour correspondre au double baptême dans l'Esprit et dans l'eau qui caractérise l'initiation chrétienne. Donc la nuée, c'est un symbole de l'Esprit. Aussi un texte d'Agé qui le montrerait. Donc nous avons dans la transfiguration aussi les trois. Le Père, le Fils et l'Esprit comme nuée de la présence. Donc nous avons ces scènes-là. Nous avons, pourrait-on dire, toute la présentation de l'œuvre du salut avec précisément les deux missions du Fils et de l'Esprit. C'est une grande vision où les trois apparaissent. Et plus spécialement, elle est impliquée dans la caricature diabolique de cette œuvre de notre salut, telle que l'Apocalypse la présente. Je trouve que c'est particulièrement intéressant à noter. Vous le savez, dans l'Apocalypse, il est assez clair que la bête singe le Christ. La bête, 666, etc., a, dans ses prétentions de représenter le Christ, le titre d'Antichrist n'est pas employé, mais il est probablement dans l'esprit de Jean qu'il l'emploie dans la première épître. Il est blessé à mort, il a l'air de ressusciter, ce personnage. Donc, c'est assez clairement, ça a été très largement reconnu, le faux Christ. Mais ce faux Christ est membre d'une trinité diabolique. Avec le dragon du diable, la bête, et le faux prophète. Deuxième bête, qui sert de témoin à cette bête, qui suscite son culte. Nous avons là une triade qui correspond assez clairement au Père, au Fils, au Saint-Esprit, en particulier tel que l'Évangile de Jean nous les présente. Le rôle de l'Esprit, par rapport au Christ, est très proche du rôle du faux prophète, deuxième bête, par rapport à la première bête dans l'Apocalypse. Donc nous avons une caricature de la Trinité, ce qui se prolonge d'ailleurs avec la caricature du rapport à l'Église, avec la prostituée Babylone, correspondante à l'Église Jérusalem. C'est très très puissamment composé, et à mon avis ça atteste une réflexion. Pour que Jean ait ainsi confectionné une caricature côté diable, il fallait qu'il ait déjà vraiment bien pensé à la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne faites pas une caricature parodique si vous n'avez pas une idée déjà assez claire de ce dont il y aura caricature et parodie. Donc c'est un témoignage sur un type de réflexion déjà trinitaire qui me paraît remarquable. Ensuite, alors, il y a les formules trinitaires. Il y en a un assez bon nombre. Je les classe en trois catégories. Je vais aller très très vite parce que je n'ignore pas le temps qui passe. Il y a des formules plus liturgiques, si on veut en tout cas. Bon, ça peut se discuter, mais bon, je me sers de cette appellation. Tout spécialement celle qui est associée au baptême, dans l'ordre que donne Jésus, Matthieu 28, et puis celle de la bénédiction qu'on trouve à la fin de la seconde aux Corinthiens. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne crois pas que ce soit d'abord une formule. C'est le sens du baptême qui est énoncé par là. Ça, je pourrais le montrer, mais ce n'est pas le point en débat maintenant. La formule a joué un grand rôle dans les discussions sur la Trinité des premiers siècles de l'Église. Elle est très remarquable. Warfield, le grand théologien début du XXe siècle, fin du XIXe et début du XXe siècle à Princeton, celui auquel nous devons tant sur la doctrine de l'écriture en particulier, Warfield a très finement commenté ce qu'il en est de la formulation en grec de ce verset de Matthieu 28. Il n'est pas dit au nom au pluriel, comme s'il s'agissait de trois êtres différents. Ce qui, en grec, aurait été normal. Alors, nous ne le voyons guère parce qu'en français, l'usage grammatical est différent. Lorsque nous avons plusieurs objets et quelque chose qui est possédé par chacun des objets séparément, nous utilisons le singulier. Donc, pour nous, dire au nom au singulier, ne marque pas qu'il existe un seul nom pour les trois. Mais c'est en grec, normalement, on emploie là le pluriel, lorsqu'il y a des noms différents pour chacun. C'est le problème aussi qui s'est posé en traduction dans Éphésiens 5. Marie aimait vos femmes, dit le grec, mais en français il faut dire votre femme. Parce qu'autrement ça suppose la polygamie, en bon français, idiomatique. Et donc l'usage n'est pas le même. Le fait qu'il y ait un singulier, donc, dans Matthieu 28, signifie qu'il y a un seul Dieu. Le Père, Fils et Saint-Esprit sont un seul Dieu. Cependant, il n'est pas dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a chaque fois l'article qui est répété au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et cela, donc, marque la distinction des personnes, leur consistance particulière. Donc, nous avons, dans la formulation exacte de cette expression dans le grec du Nouveau Testament, l'évitement aussi bien de l'hérésie trithéiste, trois dieux, ou de l'hérésie qu'on appelle modaliste, où finalement Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que trois modes de manifestation, mais ne sont pas vraiment des personnes distinctes. Donc c'est une formule remarquable. 2 Corinthiens 13, la fin du dernier verset, que nous connaissons bien, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la koinonia du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous remarquez que les appropriations sont remarquablement proches de celles de nombre 6 que je viens d'exposer. La grâce, Jésus-Christ, l'amour. Donc la grâce est la manifestation en quelque sorte historique particulière que Jésus-Christ a mis en œuvre, l'amour de le Père et la communion appropriée au Saint-Esprit. Deuxième catégorie de ces formules, des textes, alors ils sont assez nombreux, je vais me sélectionner, des textes qui mettent l'accent sur les rôles dans l'économie du salut. Il y a pas mal de passages, j'en retiens deux, en dehors même des chapitres de Jean que j'ai déjà évoqués, Jean 14 et suivant, qu'on pourrait aussi citer. Je cite Tite 3, 4 à 6, et 1 Pierre 1, verset 2. Parce que ce sont deux textes particulièrement significatifs, me semble-t-il. Les rôles propres dans l'économie du salut, en fonction des missions, des missions et des appropriations, les deux, sont remarquablement mis en valeur. Quand la bonté et la philanthropie, c'est le philanthropia qui est employé, l'amour pour les hommes, la philanthropie de notre Sauveur Dieu a été manifestée, non pas à partir des œuvres que nous aurions faites en justice, mais selon sa propre miséricorde, il nous a sauvés par le bain de régénération et renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous abondamment par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce de celui-là, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Et nous avons un résumé de toute l'œuvre du salut. Ça part de l'amour et de la miséricorde de Dieu, le Père, manifestement, qui nous sauve par l'œuvre de régénération du Saint-Esprit, comparé à un bain de renouvellement, et cette œuvre du Saint-Esprit est elle-même fondée sur l'œuvre historique de Jésus-Christ en qui nous avons la justification correspondant à l'heure de sa première venue et en qui nous plaçons notre espérance pour sa deuxième venue. Vous voyez comment tout est en place dans ce passage. Je crois qu'un auteur peut difficilement composer une phrase pareille sans avoir déjà une théologie assez précise et claire en tête à exposer. Puis je prends le début de la première épître de Pierre, qui est aussi extrêmement intéressante. C'est l'adresse en quelque sorte de l'épître. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus de la dispersion du pont de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Cette dispersion suggère que c'est l'Israël, un parallèle avec l'Israël. Il ne s'agit pas seulement d'Israélites, comme la suite de l'Épître le montre, mais il s'agit de l'Église comme Israël de Dieu, Israël selon l'Esprit. Selon la préconnaissance de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Là encore, c'est la part du dessein du Père qui est approprié au Père, c'est toute la Trinité, mais c'est approprié au Père comme premier. Cela se réalise concrètement dans notre vie par l'Esprit, le sanctificateur, et cela est rapporté à Jésus-Christ de manière double. Il est le Seigneur, auquel nous avons à obéir, et il est le Sauveur par son sang. Nous sommes purifiés de nos péchés par l'aspersion de son sang. Voyez comment, là aussi, tout est clairement mis en place. Il y aurait pas mal d'autres passages, mais j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus frappants. Et la dernière catégorie de ces textes où apparaît déjà le dessein trinitaire dans l'Écriture même, ce sont des textes qui mettent l'accent à la fois sur l'unité et la multiplicité, la pluralité. Il y a deux passages chez l'apôtre Paul qui vont dans ce sens. Je vais prendre dans l'ordre historique de composition, donc pratiquement certain. Dans la discussion sur les dons spirituels, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, l'apôtre, après avoir souligné que l'une ne peut dire authentiquement « Jésus est Seigneur, sinon par l'Esprit », dit au verset 4 « Il y a diversité de charismes, mais le même Esprit, et diversité de services, et le même Seigneur, et diversité d'opérations, et le même Dieu qui opère tout en tous. » Là, nous avons une structure trinitaire remarquable. Nous avons des termes qui désigne exactement aussi le rôle des trois personnes par rapport au Seigneur, c'est un service, par rapport à l'Esprit, ce sont des dons gratuits qu'il fait qui permettent de remplir ses services, et tout cela, c'est l'opération qui réalise le plan du Père, lui qui opère tout en tous. Mais l'accent dans ce passage, et je dirais dans cette formulation, concerne précisément la diversité et l'unité. Diversité, mais un, le même. Donc, nous voyons que l'apôtre est conduit à une formulation trinitaire précisément au moment où il veut associer le thème de l'unité et de la diversité dans l'Église, en l'occurrence, mais qui doit refléter cette unité-diversité qui caractérise Dieu lui-même avec le Fils Seigneur et l'Esprit. Donc c'est un passage que je trouve très intéressant à relever. Et un autre passage, celui qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, de nouveau il s'agit d'unité et de diversité, parce qu'il s'agit de préserver l'unité dans la communauté. malgré les tendances à la dispersion. Il s'agit de s'accueillir les uns les autres dans l'amour. Et à partir du verset 3, faisant diligence pour garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, un corps et un esprit, selon que vous avez été appelés à une espérance de votre vocation. Un Seigneur, une foi, un baptême. Un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Le thème, c'est celui de l'unité chrétienne. Il y a 7 termes, ce qui sans doute a une valeur symbolique. 7 étant précisément un chiffre qui évoque l'unité dans la diversité. Il y a 7 éléments qui sont mentionnés, qui constituent cette unité chrétienne. Chaque fois, répétition de 1. Avec une structure trinitaire. Il y a d'abord l'article sur l'esprit, avec un corps. Le corps est constitué par le baptême du Saint-Esprit, baptisé en un seul esprit pour fonder un seul corps, avec un seul corps et une seule espérance. L'esprit constitue les arts de l'espérance en nous. Vous avez les 3 des termes qui sont dans l'article sur l'esprit. Un seul esprit. Un seul Seigneur, il s'agit manifestement du Seigneur Jésus-Christ, une seule foi, la foi, là, a sans doute une connotation assez objective, ça peut être la démarche, mais aussi la vérité, que l'on confesse au nom de Jésus-Christ, et le baptême, un seul baptême, qui est l'expression de l'allégeance à ce Seigneur. Donc, 3 autres termes dans l'article du Fils, et puis, un terme pour le Père, mais avec développement. Un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, c'est-à-dire qui récapitule, puisqu'il est le premier, qui récapitule l'unité trinitaire. Il est au-dessus de tous comme Père, s'est approprié à sa situation de Père, parmi tous, par la présence du Fils, qui est venu parmi nous, et en tous, parce qu'il donne son Esprit qui habite en nous. Donc nous avons, avec cette clause sur le Père, le 7e article de ces définitions du pilier de l'unité, une sorte de récapitulation englobante dans une perspective trinitaire. Voyez à quel point tout cela est raffiné et nous montre qu'il y a déjà une réflexion de type trinitaire dans les textes du Nouveau Testament. La 3e catégorie de preuves bibliques, je vais passer par-dessus. J'espère que je pourrai reprendre certains éléments dans l'exposé de cet après-midi, de notre dernier exposé. Il s'agissait de ce que j'appelais la métaphysique biblique. Je dis très brièvement, en une seule phrase, ce que j'aurais cherché à développer. Je pense qu'on peut dire que la conviction qu'il y a un univers, que la réalité a une unité globale, qui permet de la penser d'ailleurs ensemble, sans quoi elle serait impensable, repose sur l'affirmation du monothéisme. Il y a un seul Dieu. Sans quoi, bon, je pense que je pourrais démontrer que le polythéisme conduit, si on veut être rigoureux, à l'incohérence, inévitablement. Mais simultanément, réalité du multiple. L'univers qui n'est pas un multivers, qui a une unité, contient aussi une réelle diversité. Elle n'est pas une illusion, contrairement, elle n'est pas du maya, c'est-à-dire une illusion d'optique, comme pour certaines pensées de l'Inde. Elle est authentique et réelle, et cela se fonde sur le caractère premier de la diversité, de la multiplicité qui est en Dieu même. Alors je tenterai, j'espère que je pourrai, de revenir aussi sur ce point dans le dernier exposé, mais je passe maintenant à l'exposé suivant, quand même en vous donnant l'occasion de poser des questions. Hein, c'est tout naturellement un moment d'intervalle de libre-échange entre nous que le moment où je passe de mon deuxième exposé au troisième. Y a-t-il des questions sur ce que j'ai exposé depuis que nous avons repris, là, depuis 50 minutes? Oui, oui.
Vous avez parlé de façon très convaincante du fait qu'il y a le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu. Une autre question qui n'est pas à moi discutée, c'est l'égalité des membres de la Trinité. Parce que, d'une part, il y a les paroles de Jésus qui donnent un peu l'impression que le Père est plus grand que Jésus. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de théologiens qui affirment qu'il y a une égalité entre les membres de la Trinité. Est-ce que vous auriez quelques remarques là-dessus?
Oui, je vais essayer de répondre à la question, qui est aussi tout à fait centrale dans le travail de théologie trinitaire. L'égalité entre les personnes de la Trinité semble inséparable de l'affirmation qu'il y a un seul Dieu et que le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, sans réserve, dans le sens plénier du terme. S'il y a un seul Dieu, qui n'existe pas plusieurs fois, il y en a un seul. Il y a, comme dit Vintil dans le texte que M. André a traduit, il y a une identité numérique. Lorsque nous disons qu'il y a une seule essence divine, ce n'est pas comme une seule essence humaine pour plusieurs hommes, parce que là, l'essence humaine existe plusieurs fois en plusieurs hommes. L'essence divine n'existe qu'une seule fois, parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a plusieurs hommes, mais il y a un seul Dieu. Alors, si le Fils est Dieu, il y a un seul Dieu, on ne voit pas comment il pourrait y avoir inégalité. C'est la divinité même qui est possédée. C'est de cette façon qu'on est conduit, en théologie trinitaire orthodoxe, à affirmer l'égalité, qui est très fortement affirmée, par exemple, dans le symbole d'Athanase, donc, ça, c'est ce qui pousse à affirmer cette égalité. Du coup, certains textes paraissent difficiles. Le Père est plus grand que moi. Il y a deux façons de rendre compte de ces textes qui ont l'air d'affirmer une inégalité entre les personnes de la Trinité. Ils peuvent être interprétés, je dirais pratiquement tous, de la condition humiliée du Fils, dans la chair, en rapport avec l'humanité qu'il a adoptée. Comme homme, le Christ est une créature. Comme homme, il est inférieur au Père. Et donc, on peut interpréter ces passages à partir de son humanité. Car ils concernent pratiquement tous le rapport du Fils et du Père. Nous n'avons pas de pareil verset à propos de l'Esprit, me semble-t-il. Mais il y a quand même une autre façon de les interpréter, qui est aussi admise, et parfois on peut hésiter, hein. Saint Augustin hésite par exemple, à certains moments. On peut aussi les interpréter, non pas d'une inégalité de nature, ils possèdent une seule et même nature, entièrement, tous les trois, chacun, mais de l'ordre dans la vie trinitaire. Plus grand dans ce sens qu'il y a un ordre, rien de plus. Que le Père engendre et que le Fils est engendré, ça veut dire un ordre, le Père est premier, le Fils est second. Dans un certain nombre de cas, cela semble une interprétation peut-être plus en harmonie avec le contexte. Dans le texte d'un Corinthiens 11, sur Dieu qui est la tête du Christ, il me semble que c'est une interprétation qui est préférable. C'est le texte qui évoque donc l'homme comme tête de la femme, le Christ tête de tout homme, et Dieu comme tête du Christ. Ça peut s'interpréter du Christ incarné, mais il me semble que, aussi du fait que c'est l'image de Dieu qui est en cause, aussi dans le rapport homme-femme, que nous ayons là une affirmation qui vaille de la Trinité éternelle, mais qu'il s'agisse de l'ordre, dans une parfaite égalité de nature, comme entre l'homme et la femme, une différence dans l'ordre de la disposition introduite. Voilà, en gros, ce que je crois pouvoir répondre sur ce sujet. Oui, madame ? Alors, là, vous faites intervenir ce qui concerne le mystère de lumière, le mystère de la personne du Christ incarné. La théologie orthodoxe, là encore, à travers les siècles, catholique aussi bien que protestante, a affirmé que cette croissance concernait l'humanité de Jésus-Christ, qui demeure distincte de sa divinité. Donc, il a grandi en sagesse, en stature et en grâce, dans son humanité. Mais, quant à sa divinité, il possédait tout absolument avec le Père tout au long. Et il était celui qui maintenait tous les mondes dans leur ordre, par sa parole toute puissante, dans ce temps même, en même temps. Ça, c'est la théologie orthodoxe. Alors, c'est très difficile à imaginer. Il nous faut nous rendre compte que la situation de l'incarnation est une originalité absolue. Il n'existe aucun être, et je crois qu'il ne peut pas exister, aucun être, jamais, dans les cieux, sur la terre, qui ait eu deux natures distinctes, à la fois. La nature, en principe, c'est tout ce qu'est quelqu'un, vu comme un tout. Tous les caractères qui le caractérisent, vu comme un tout. Et donc tout ce que quelqu'un est, c'est sa nature. Alors, deux natures, ils sont distincts, ce n'est possible qu'à cause du rapport unique de Dieu à sa créature. Seul Dieu pouvait prendre une nature de créature et demeurer distinct. Mais ça nous échappe, nous n'avons aucun autre cas pour comparer. Il me semble, avec certains autres théologiens, que malgré tout, le jeu de cette nature humaine, étant donné la disproportion infinie avec la nature divine et ses pouvoirs, n'a été possible dans les jours de la chair de Jésus, pour employer l'expression de l'Épître aux Hébreux, n'a été possible qu'à la suite d'un certain renoncement, qu'on appelle kénose, que le Christ, pour, en tout cas ce qui concernait la vie qu'il jouait comme homme, a renoncé à un certain usage de ses prérogatives divines. Imaginez comment, c'est très très difficile, mais je pense qu'il y a des éléments qui nous permettent de le dire, ce qui est le verset sans doute le plus fort, c'est en Marc 13 je crois, c'est cette ignorance du Fils quant à la date de sa parousie. Le Père seul le sait, le Fils, les anges ne le savent pas, le Fils même, bien au-dessus des anges, donc d'après cette parole, ne le sait pas. La théologie que je viens d'exposer nous oblige à dire qu'en sa divinité, il le sait. Mais c'est dans cette situation historique, il renonce à faire usage de ce savoir. En quelque sorte, il le met entre parenthèses, il y renonce, et c'est ce qui peut être évoqué par l'expression ekénosen, de laquelle le mot kénos est tiré, dans Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à l'usage de ses prérogatives. Il me semble très difficile d'interpréter les données qui concernent la personne de Jésus-Christ dans les jours de sa chair, sans faire intervenir aussi ce facteur. Alors, l'hérésie guette, à gauche et à droite, quand on touche de tels mystères. Mais je vous livre ce qui est, au moins à l'heure actuelle, la conclusion de ce que j'ai pu lire et à quoi travailler.
Pour vous, donc, la kénose implique la divinité. C'est dépouillé au point de la divinité, c'est ça.
Oh, je fais bien attention de ne pas dire ça. Je pense que la kénose est une limitation dans l'usage de ses prérogatives divines. Il n'a pas considéré comme un butin exploité, quelque chose de quoi profiter, c'est sans doute, c'est une tournure idiomatique en grec, c'est sans doute comme ça qu'il faut traduire, le fait d'être à égalité avec Dieu. Je traduis tout à fait littéralement. Là. Je pense que ça veut dire qu'il n'a pas usé de ses prérogatives dans les jours de sa chair, dans l'état d'humiliation. Mais il ne dit nulle part qu'il a cessé d'être Dieu. Le verbe kénoo, qui est employé là, je crois se traduit mieux il s'est dépouillé qu'il s'est vidé. Le mot est utilisé de manière très très variée et c'est une mauvaise méthode que de chercher l'étymologie et de venir à l'étymologie qui implique l'idée de vider en disant donc il s'est vidé de sa nature divine. Non, non, non. Ce n'est pas impliqué par l'usage du mot et ce n'est pas enseigné par aucun passage et je pense que c'est impensable avec la vision biblique de Dieu. Donc, il s'est dépouillé, il s'est rendu insignifiant, ce qu'on peut aussi traduire pour un tel verbe. Il y a kénose, oui, mais elle implique une limitation dans l'usage qui n'est même pas, je ne dis même pas, totale. Parce que dans les évangiles, nous avons des témoignages d'une action par Jésus-Christ, de sa puissance divine, et même pas seulement par l'assistance de l'Esprit-Saint, comme un prophète. Lorsqu'il calme la tempête, les disciples, et manifestement, c'est le sens que l'évangéliste veut que nous comprenions, il voit une preuve de ce qu'il est, son identité. Qui est celui-ci qui commande au vent et à la mer? Donc, nous n'avons même pas à dire qu'il a cessé totalement d'exercer ses prérogatives divines dans la sphère de sa vie terrestre. Il me semble que nous devons dire qu'il a cependant limité pour que l'exercice de son humanité, de ce qui est relatif à son humanité, puisse se faire sans tricher. Qu'il ne soit pas englouti par l'infinie puissance de sa divinité. Voilà ce que je lui suggérerais. Oui.
À la fin, le Christ va être accouché au monde.
Oui. Alors, je peux vous dire comment je comprends ce texte, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Je comprends le texte dans son ensemble de la manière suivante. Dans le temps présent, il y a une sorte de décalage par rapport à l'ordre trinitaire originel, fondamental. Cet ordre qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Dans le temps présent, lié à la mission de salut, qui est la mission dévolue à Jésus-Christ, c'est le Fils qui dirige les destinées du monde. Assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est lui qui dirige, qui exploite la victoire de la croix en se soumettant toutes les puissances révoltées. Il met tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera vaincu, il sera soumis, c'est la mort. Alors là, ce sera la résurrection. Hein. Paul dit tout ça pour prouver qu'il va y avoir la résurrection. Donc, il met tous ses ennemis. Et une fois que cette œuvre sera achevée, où le Fils est en quelque sorte en vedette, je dirais, anormalement, vous comprenez dans quel sens je le dis, par rapport à l'ordre trinitaire, où c'est le Fils qui, en quelque sorte, a l'air de jouer un rôle de premier, ayant accompli son œuvre, alors il remettra le royaume à Dieu le Père, et ce qui rayonnera éternellement, c'est l'ordre trinitaire originel, le Père, le Fils, l'Esprit. Il sera soumis au Père, dans ce sens que sa place de second dans l'ordre trinitaire sera rendue de nouveau plus évidente. Voilà comment je comprends ce passage, qui est un passage débattu. Certains ont accusé Calvin d'une interprétation qui, je crois, n'est pas la sienne. Je le signale au passage, parce que c'est un texte un peu difficile, mais il me semble qu'il peut se lire comme je viens de vous le suggérer. Oui ?
Est-ce que vous pouvez dire un mot de la parole de Jésus sur la croix, Père, pour pas mal de la parole de Dieu, dans ce chapitre ?
C'est pas la statue du commandeur, mais...
Non, mais quasiment, mais... J'espère que vous ne sentez pas dans l'âme de Don Juan. Moi, je pense qu'on va garder cette question et puis voir comment on va la gérer. Il faut quand même aller d'avant pour vous laisser la parole dans la cohérence de ce que vous aviez préparé. Et puis on garde soigneusement ta question.
D'accord. Alors, je vous livre maintenant... Bon, j'essaye vraiment que ce soit dans 10 minutes, hein, 10 minutes. Ce que j'avais prévu pour le troisième exposé de l'ensemble, le raccourci d'histoire du dogme. J'aurais lu en introduction, si j'en avais eu le temps, je vous signale quand même la référence, dans la première épître de Jean, le chapitre 2, versets 18 à 27. Il me semble que nous pouvons schématiser l'histoire en distinguant trois grandes tranches. Il y a une première époque qui est celle d'étâtonnement, d'élaboration, de la recherche de langage adéquat qui aboutit aux grandes confessions de foi qu'on appelle les symboles. C'est dans le sens de confession de foi, en particulier le symbole de Nicée. Le premier grand concile, après la conversion de Constantin, il a été possible de réunir des représentants des églises de tout l'Empire romain. C'était pratiquement toute la chrétienté. Donc, il y a eu un premier concile, dit écuménique, c'est-à-dire du monde entier, qui a concerné tout spécialement la divinité de Jésus-Christ. Et puis ensuite, les autres conciles qui ont prolongé Constantinople, Chalcédoine pour la personne de Jésus-Christ et ses deux natures. C'est la première tranche, et c'est de manière très progressive, à travers des luttes diverses, que les pères de l'Église sont parvenus à définir les vérités clés que nous réunissons dans le dogme trinitaire, et qu'ils ont réunis dans le dogme trinitaire. Alors, quel point souligner à propos de cette première période ? Je pense que j'ai deux points principaux que j'essaie de vous communiquer. Le premier, c'est qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que c'est le plaquage sur la religion si simple de l'Église primitive et de Jésus, de tout un fatras tiré de la philosophie grecque. Ça, c'est la représentation que certains libéraux ont donnée. L'évangile si simple de Jésus, aimez-vous les uns les autres, la valeur infinie de chaque âme humaine, royaume de justice, rien de plus. Et puis alors, après ça, on a fait de lui un dieu, on a utilisé les catégories de la pensée grecque. C'est une représentation tout à fait faussée des choses. Le dogme trinitaire, le dogme christologique qui ont été formulés, ont été contre la philosophie grecque. Et ce ne sont pas les catégories de la philosophie grecque qui ont été plaquées sur le Nouveau Testament. C'est sous la pression du Nouveau Testament que ces catégories ont été reforgées avec des significations nouvelle pour servir la vérité chrétienne et la dire en grec, la dire dans le langage des intellectuels grecs, parce qu'il faut bien penser sa foi. Mais ce qu'on a vu se produire, c'est une victoire progressive par labeur difficile de la vérité néo-testamentaire sur les catégories et les préférences de la pensée grecque. Et à ce propos, il faut dire que ce sont les hérésies qui correspondaient à la pensée grecque, aux préférences de la pensée grecque. Ça a été très bien exprimé par un très grand historien de la pensée patristique, Alois Grillmayer, un catholique. Il a d'ailleurs été fait cardinal, même en salutation de l'excellence de son travail. Il dit, la gnose, l'hérésie typique du IIe siècle, au IIe siècle, c'est le modernisme. J'ai beaucoup apprécié ce discernement. Et oui, c'est une version du christianisme qui est mise au goût du jour, dont certaines formes chrétiennes demeurent, mais ce qui en fait la force a été enlevé pour plaire à la pensée du temps. C'est comme ça qu'on peut définir le modernisme même. C'est une réinterprétation de l'Évangile qui en enlève des éléments essentiels pour s'accorder mieux à l'esprit du temps. Deuxième grande remarque à propos de cette première période, les hérésies entre lesquelles l'orthodoxie peu à peu émerge et trace sa voie, se situe à gauche et à droite. Il y a constamment des formes qui pêchent d'un côté et qui pêchent du côté opposé. Et elles deviennent de plus en plus subtiles au fur et à mesure qu'on avance. Une hérésie grossière de gauche est dénoncée, eh bien, à la génération d'après, il y aura une forme un peu plus subtile. Une forme un peu plus subtile. Et c'est comme ça que ça marche, le progrès. Alors, en ce qui concerne la Trinité, les deux grandes hérésies, à gauche et à droite, représentent une utilisation qui du coup, en fausse sens, de l'unité d'un côté pour la pluralité de l'autre. L'hérésie qu'on appelle modaliste, ou parfois sabellienne, du nom de Sabellius, qui en a été le plus illustre représentant, l'hérésie modaliste tire son nom du fait que le Père, Fils et Saint-Esprit sont considérés comme trois modes de révélation d'un Dieu qui, en son fond, n'est pas différencié, n'est pas plusieurs. Le modalisme se veut défenseur du monothéisme. Il a très peur que, lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chaque fois comme Dieu, en les disant distincts, on retombe dans le polythéisme païen. Donc, le modalisme se voit comme un défenseur du monothéisme, mais il sacrifie une véritable pluralité en Dieu. À l'inverse, de l'autre côté, c'est l'unité du divin, c'est la pleine divinité de Jésus-Christ qui est remise en cause. Le Fils et, pour certains, en tout cas au moins l'Esprit, ne sont plus considérés comme de super créatures. Parce que le trithéisme, proprement dit, n'a guère été défendu sous cette forme-là, mais plutôt sous la forme super créature. Alors la forme par excellence de cette hérésie de droite, pourrait-on dire, ça a été celle que le prêtre Arius, un prêtre d'Alexandrie, a rendu extrêmement célèbre. C'est contre lui que le concile de Nicée s'est réuni pratiquement. Arius a été très efficace. Il était très doué, il composait des cantiques. C'est aussi en partie par le moyen de l'hymnologie qu'il a diffusé ses vues. Et il avait des textes qui semblaient aller tout à fait dans son sens. Nous avons évoqué, le père est plus grand que moi tout à l'heure, il utilisait aussi très fortement la traduction grecque de Proverbe 22, excusez-moi, Proverbe 8, 22, ce texte sur la sagesse personnifiée que, à son époque, pratiquement tout le monde a appliqué directement au Christ. Et la traduction grecque disait « Le Seigneur m'a créé, première de ses œuvres. » Alors voilà, la preuve que le Christ, et là c'est un préexistant, le Christ est créé, c'est une créature. Ça paraissait très très fort. En fait, c'était une mauvaise traduction. Je pense qu'on peut, la critiquer. Ce n'est pas le terme créé qui est employé dans, c'est pas bara en hébreu. C'est un verbe qui peut signifier soit acquérir, soit, bon, c'est ma préférence, procréer. C'est l'image de l'engendrement qui est employée dans ces versets. Donc c'est en fait une erreur de traduction. Et ce n'est pas première de ses œuvres, c'est le principe de ses œuvres. Donc, c'était une mauvaise traduction, mais à l'époque, dans l'Église, très très peu avaient conservé la moindre connaissance de l'hébreu, et donc, c'était efficace. Donc, il y a eu ces hérésies, et par la suite, on peut dire que chaque fois, des formes plus raffinées de ces erreurs ont pu se manifester. Deuxième grande tranche de l'histoire, celle qu'inaugure Augustin. Augustin, en un sens, il recueille tout le butin du travail des premiers siècles de l'histoire chrétienne. Il réfléchit en particulier à la Trinité. Il compose un traité de la Trinité qui sera fondamental pour tout un millénaire ensuite en Occident. Augustin est un génie de première grandeur. Un non-chrétien, parce que je pense qu'on peut dire qu'il n'a jamais fait profession de foi chrétienne, comme Karl Jaspers, grand philosophe existentialiste, le met au rang des philosophes dont l'œuvre est une source de renouvellement perpétuel. Il y en a eu 3 ou 4 dans toute l'histoire de l'humanité. Il a bien vu qu'Augustin mérite d'être classé parmi ceux-là. Après les hommes qui ont donné la mesure de l'humain, alors il met Confucius, Bouddha, Jésus, il y a ces penseurs tellement riches, Augustin. Augustin, pour la doctrine de la Trinité, a fait 2 grands apports. J'avais posé une question, vous avez peut-être travaillé la chose, mais je le dis très très brièvement. Sa théorie des relations et son développement sur les analogies. Nous aurons l'occasion surtout de reparler des analogies cet après-midi. La théorie des relations, il ne l'a pas entièrement inventée. Il recueille là quelque chose qui se trouve déjà chez les pères cappadociens du IVe siècle. Les pères cappadociens sont trois théologiens de Cappadoce qui ont fait triompher la foi de Nicée contre les Ariens. Basile de Césarée, son jeune frère Grégoire de Nice, N-Y-2-S-E, hein, ce n'est pas Nice en France, et l'autre Grégoire, qui était leur ami, et une autre amie, Grégoire de Naziance. De Naziance, on peut écrire des deux façons. En fait, après le grec, c'est le deuxième cercle. La théorie des relations, très très encombrante, c'est équivaut à ceci. Le Père et le Fils ne se distinguent pas par les propriétés de la nature, comme je vous l'ai dit. Il y a un seul Dieu, chacun d'eux est pleinement Dieu. Qu'est-ce qui les distingue? Simplement la relation. Le fait que l'un est le Père et l'autre le Fils. Ils ne se distinguent d'aucune autre façon que relationnellement. Et cela, alors, Augustin l'a travaillé, l'a exploité. Et puis, alors, il a travaillé sur les analogies. Alors, il y a quelques faiblesses dans l'œuvre d'Augustin. Je pense qu'on peut dire qu'elles ont été en partie corrigées au Moyen-Âge. Et la réforme a endossé, qui était très augustinienne, hein, la réforme a endossé toute l'œuvre, toute la théologie trinitaire d'Augustin, du Moyen-Âge. Nous avons la continuité dans le christianisme évangélique, réformé par Luther, Calvin, etc. Et puis, troisième grande tranche, alors, l'ère du modernisme, de la modernité jusqu'à ses formes tardives aujourd'hui, et l'adaptation d'un christianisme diminué pour convenir à l'esprit des temps modernes, modernisme. Là, la doctrine de la Trinité a subi deux sorts principaux. Le rejet, une bonne partie du libéralisme protestant ou du modernisme catholique, car on a souvent spécialisé les termes de cette façon, pour le phénomène moderniste dans le sens global, une partie a rejeté la doctrine de la Trinité, comme n'étant pas biblique, comme étant incompréhensible au sens d'inintelligible, impliquant la contradiction, ne pouvant pas être toléré. Ça, c'est une partie. Depuis les Sauciniens, ça a commencé dès le XVIe siècle. Les réformateurs ont eu des opposants déjà allant dans ce sens. L'autre façon moderniste de traiter la doctrine de la Trinité, c'est de l'interpréter, comme je vous l'ai dit, selon l'orientation panenthéiste, profitant du fait que le Fils est homme, donc créature, fait partie du monde. Il y a eu exploitation du dogme trinitaire au profit d'une pensée qui tente à confondre à divers degrés Dieu et le monde, Dieu et l'histoire. La forme la plus achevée sans doute de cela, qui exerce son influence encore aujourd'hui, c'est celle de la pensée du philosophe allemand Hegel. Mais il y a d'autres formes qu'on pourrait aussi évoquer, avec certaines réactions contre, mais peut-être pas entièrement libérées, comme celle de Cravat en particulier, qui a offert une doctrine de la Trinité assez originale. Mais la modernité me semble caractérisée globalement par ces deux façons de détruire le sens propre, que je crois biblique, et en tout cas celui de l'orthodoxie subséquente du dogme de la Trinité. Voilà le schéma qui nous indique où nous en sommes et qui vous explique ma militance sur certains points. Alors, voilà, j'ai réussi à presque à tenir le temps pour ce résumé.